Dans les systèmes totalitaires, ce qui est juste et droit correspond à la ligne du parti, quelle que soit sa couleur. Ce sont les membres du bureau politique qui décident ce qui est bien et mal, vrai ou faux. Il s'ensuit que ceux qui choisissent d'obéir aux lois morales universelles établies par Dieu sont haïs par le système et peuvent être pourchassés comme de vulgaires criminels. Je continue à lire dans le chapitre 5 du livre d'Amos. Vous haïssez celui qui défend le droit à la porte. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Verset 10. La porte de la ville était l'endroit où les gens du peuple venaient faire toutes leurs transactions civiles et où la justice était rendue, ce qui apparaît très clairement dans le livre de Ruth qui raconte l'histoire de cette charmante jeune femme d'origine moabite. Apparemment, celui qui prenait son courage à deux mains et qui se rendait à la porte de la ville pour défendre le droit des innocents était accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Je continue. Par conséquent, puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin, car je connais vos nombreux crimes et vos énormes fautes. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin et vous lésez le droit des pauvres en justice. Versets 11 et 12. Le riche qui avait réussi à extorquer le domaine agricole appartenant à un pauvre propriétaire faisait ensuite de lui son métayer, ce qui obligeait ce dernier à donner une partie de la récolte à ce nouveau nabab qui finalement se comportait exactement comme un mafioso moderne. De plus, les juges n'acceptaient de statuer en faveur d'un innocent qu'après avoir reçu un pot de vin de lui, ou alors ils favorisaient les riches qui leur donnaient des dessous de table. Ce racket allait bien sûr à l'encontre de l'enseignement de la loi de Moïse. Je lis un passage. Vous ne fausserez pas le cours de la justice, vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes et vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceci aveugle même les sages et compromette la cause des innocents. Puisque les grands du royaume des 10 tribus écrasaient les pauvres et les innocents, Dieu leur fera justice et les malfrats seront punis et privés des fruits de leurs exactions. Je continue. Aussi, l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Verset 13. Il est des situations où la corruption est telle que l'on ne peut plus s'y opposer. Il ne reste alors plus à l'homme sage que le silence comme signe de désapprobation. Naturellement, la situation du prophète Amos, qui a reçu de la part de l'Éternel la charge de parler, d'avertir et de menacer est différente du commun des mortels. Aussi continue-t-il sa mission avec fidélité, malgré les risques qu'il encourt. Je continue. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Verset 14. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les Israélites baignaient dans une fausse confiance. Ils croyaient vraiment que Dieu les protégerait de toute attaque ennemie. Il est vrai que la présence de l'Éternel au milieu des tribus d'Israël avait été la grande assurance du peuple hébreu depuis sa sortie d'Égypte. Ils savaient que leur Dieu Tout-Puissant se battrait pour eux, mais depuis que la nation d'Israël Nord existait, l'intervention de l'Éternel en sa faveur se faisait de plus en plus rare parce que le peuple dans son ensemble se conduisait aussi mal que les nations païennes. Pourtant, les Israélites pensaient que leur prospérité matérielle était la preuve que Dieu les bénissait. Ils ne se doutaient pas que d'ici quelques années, ils seraient anéantis en tant que nation. Juda, Le royaume du sud ne valait guère mieux, et ses habitants aussi se faisaient de douces et fausses illusions. Le prophète Michée leur a fait les mêmes reproches qu'Amos. Je lis un passage. Les chefs rendent leur jugement contre des pots de vin, et les prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi par votre faute, Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. La montagne du Temple sera une colline couverte de broussailles. » Fin de citation. On retrouve cette fausse sécurité parmi les Juifs du 1er siècle à qui Jésus a dit « Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. » Je continue le texte d'Amos. « Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien et rétablissez le droit en justice. » Alors, peut-être, l'Éternel, Dieu des armées célestes, aura-t-il compassion d'un reste des descendants de Joseph. Verset 15. C'est le dernier appel adressé au cœur du peuple avant que l'irréparable ne se produise. Quand l'heure du jugement aura sonné, il sera trop tard. Pour Israël Nord, les dés sont déjà jetés et le châtiment est inévitable. Cependant, il peut encore être différé et un petit reste du peuple sauvé s'il revient à Dieu. Mais cette démarche doit être sérieuse, ce qui est bien mis en évidence par la phrase contrastée « Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien ». Chercher l'Éternel ne suffit plus, il faut vraiment un revirement complet. Haïr le mal et aimer faire ce qui est bien selon la loi. Dans l'expression « alors peut-être l'Éternel aura-t-il compassion », on devrait graver ce « peut-être » en lettres de feu parce qu'il montre bien que la grâce du coupable qui se repent n'est pas un dû car Dieu ne doit rien à personne. Même si certains membres du peuple changent radicalement de comportement, ils méritent quand même le châtiment divin pour leur faute passée. Le prophète Joël fait la même remarque quand il dit « Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il l'avait menacé. Qui sait ? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il aussi de ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction ? Je continue le texte d'Amos. Voici donc ce qu'annonce le Seigneur l'Éternel, Dieu des armées célestes. Sur toute place, on se lamentera et dans toutes les rues, on s'écriera « Hélas, hélas !» On conviera les paysans à prendre part au deuil et ceux qui savent des complaintes à se joindre aux lamentations. Verset 16. Après une exhortation de la dernière heure, le prophète continue ses menaces de jugement. Hélas, hélas, c'est une lamentation pour un mort. Et pour un roi, on disait « Hélas, mon Seigneur, hélas, sa majesté ». En Palestine et dans tout le Moyen-Orient, les chants funèbres tenaient une grande place dans les obsèques. Ces lamentations étaient généralement composées et chantées par des pleureurs et pleureuses professionnelles. Je lis un passage. « Convoquez les pleureuses et faites-les venir. Envoyez appeler celles qui sont habiles à la lamentation et qu'elles viennent. Oui, qu'elles se dépêchent pour prononcer sur nous leurs cris plaintifs. » et que nos yeux fondent en larmes et que les pleurs ruissellent de nos paupières. Après l'invasion d'Israël Nord par les Assyriens, il ne restera plus grand monde debout. Le peuple sera décimé et l'on célébrera des funérailles dans tout le pays. Il y en aura tellement que les pleureurs professionnels ne suffiront pas à satisfaire la demande et qu'il faudra donc faire appel à tous les valides, même à ceux qui travaillent dans les champs, pour venir pleurer les victimes de leur village. Je continue. Et dans tous les vignobles, on mènera le deuil, car je passerai au milieu de toi, l'Éternel le déclare. Verset 17. Quand on cueillait le raisin, les vignes étaient un lieu de réjouissance, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais au moment du jugement, elles seront le théâtre de massacres et seront jonchées des cadavres des soldats morts au combat. L'expression « je passerai au milieu de toi » est un écho terrible à la 10e plaie d'Égypte, car le verbe « passerai » est le même que celui qui décrivit l'action de l'ange exterminateur qui avait frappé les premiers-nés égyptiens, mais qui avait épargné les Israélites. Je lis le passage. Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte, et tout fils aîné dans ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Malheureusement, par sa conduite, Israël Nord est maintenant confondu aux ennemis de Dieu. En conséquence, l'Éternel se retourne contre son peuple pour le traiter de la même manière que les Égyptiens. Je continue le texte. « Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne, mais savez-vous ce qu'il sera pour vous le jour de l'Éternel ? Ce sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. » Verset 18. Le mot pour malheur était généralement utilisé pour exprimer sa douleur devant la perte d'un être cher ou d'un personnage important du royaume. Prononcé sur les vivants, malheur était une prédiction de mort et de destruction. Plus loin, Amos dirige ses menaces à la fois contre les chefs d'Israël Nord et Sud quand il dit « Malheur à vous qui vivez bien tranquille dans Sion, et vous qui vous croyez bien en sécurité sur les montagnes de Samarie, oui, vous les grands de la première des nations, vous tous vers qui accourt la communauté d'Israël. » Environ une vingtaine d'années plus tard, Ésaïe et Michée, qui prophétisaient en même temps mais contre le royaume de Juda, prononcèrent des menaces semblables à celles d'Amos. Je lis un extrait de leurs écrits. « Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre au point d'occuper tout l'espace et d'être seul dans le pays. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir excité par le vin. Voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. Ses notables mourront de faim et la population de soif. C'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge et démesurément élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront ensemble, et leur joyeux tumulte s'en ira avec eux. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme des traits d'un attelage. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Malheur à vous qui vous prenez pour sage et vous croyez intelligent. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de boire et des champions pour vous gorger d'alcool. Qui pour un pot de vin acquittait le coupable et qui privait le juste du droit qui lui est dû. Voilà pourquoi vous serez consumés comme un fétu de paille dévoré par la flamme et comme une herbe sèche engloutie par le feu. Malheur à ceux qui méditent le mal et trament des méfaits tout au long de la nuit. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les prennent. Ils oppriment les gens, les dépouillant de leurs habitations et de leurs terres. C'est pourquoi l'Éternel déclare « Contre cette nation, je projette un malheur. Il sera comme un joug dont vous ne pourrez plus vous dégager le cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce temps qui arrive est un temps de malheur. » Fin de citation. Même si le royaume de Juda a duré presque un siècle et demi de plus que celui du Nord, finalement, tous les Israélites ont été jugés de la même façon et pour les mêmes fautes dans les domaines moral, social et religieux. Le thème apocalyptique du jour de l'Éternel est apparu pour la première fois au IXe siècle avant Jésus-Christ avec Abdias, le premier des prophètes, à mettre ses prédictions par écrit. Il n'a exercé son ministère que pendant quelques mois, sous les règnes de Joram, roi d'Israël Nord, et de Joram, roi de Juda, après le sac de Jérusalem par les Philistins, les Arabes et les Édomites. Le jour de l'Éternel est un terme théologique technique. Ce jour couvre une période de temps relativement longue qui commence au moment de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Cet événement sans précédent déclenche un jugement particulièrement sévère de l'humanité qui dure 7 ans et qui a pour nom la tribulation. La seconde partie s'appelle la grande tribulation parce que les châtiments divins qui frapperont alors le monde seront terribles. Ces 7 années de détresse culmineront avec le retour en gloire de Jésus-Christ qui viendra établir par la force son royaume 1000 ans sur terre. D'une façon générale, quand les Écritures mentionnent le jour de l'Éternel, c'est la première phase qui est évoquée, celle où Dieu règle ses comptes en rétribuant tous les incroyants pour leurs actes mauvais. Les Israélites à qui Amos est envoyé pensaient que le jour de l'Éternel leur serait entièrement favorable et qu'il entraînerait le jugement de leurs ennemis héréditaires à tout jamais. Ils attendaient ce jour comme celui de leur triomphe définitif, où, en tant que peuple de Dieu, ils atteindraient le summum de la gloire et prendraient la tête de toutes les nations. Dans leur vision du monde, les Israélites pensaient que l'Éternel instaurerait le royaume pour leur bénéfice. Mais cette espérance n'était que pure illusion, un ballon de baudruche, un nuage de fumée, car le jugement du jour de l'Éternel atteindra les Israélites de plein fouet à cause de leur perversité. Parce qu'ils avaient rompu le traité d'alliance qui les liait à l'Éternel, ils étaient devenus l'ennemi de Dieu au même titre que n'importe quelle nation païenne. Amos est donc le porteur de très mauvaises nouvelles. Un peu plus loin, il enfonce le clou en répétant une fois encore que le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde, sans aucune clarté. Cela dit, les Israélites du Nord n'ont pas été jugés au jour de l'Éternel proprement dit, puisqu'il n'a pas encore eu lieu. Cependant, ils ont bel et bien subi un châtiment semblable à celui qui sera infligé à ce monde lorsqu'ils ont été envahis par les Assyriens et furent soit détruits, soit exilés. Ce fut pour eux non pas le jour de l'Éternel, mais un jour de l'Éternel. Cependant, le résultat final est le même. En ce jour, que ce soit celui à venir ou un jour de l'Éternel intermédiaire, Dieu se venge de tous ceux qui se révoltent contre lui, et le fait d'appartenir au peuple choisi ne change rien, car tous les rebelles, qu'ils soient païens ou juifs, sont châtiés. Alors que les Israélites du Nord attendaient le jour de l'Éternel comme un moment historique où Dieu prendrait leur parti et leur donnerait une grande victoire militaire contre tous leurs ennemis, ils subirent au contraire une immense défaite aux mains des Assyriens et leur nation fut rayée de la carte à tout jamais. On peut se demander comment ils ont pu se tromper à ce point sur leur véritable position vis-à-vis de Dieu. Si on considère qu'il y a environ 2000 systèmes de croyances religieux différents dans le monde, ils ne peuvent évidemment pas tous être dans le vrai et pourtant tous leurs adeptes, qui se comptent par milliards, pensent détenir la vérité. Dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes répète 2 fois la maxime Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Je peux être prêt à mettre ma main au feu que je suis sur le bon chemin qui va au ciel. Avoir le sentiment de ne pas me tromper, être tout à fait convaincu d'avoir raison, mais ce ne sont que des pensées et des paroles en l'air. Les passagers du Titanic aussi étaient certains qu'ils arriveraient à bon port. Les fanatiques qui se font sauter en essayant de faire un maximum de victimes croient que leur acte meurtrier leur vaudra le paradis. Les adorateurs d'oignons aussi pensent être dans la vérité. Ce n'est pas la logique humaine, ni l'intuition, ni l'instruction, ni l'intelligence, ni le savoir, ni je ne sais quoi d'autre encore, qui permet de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Les Israélites du Nord croyaient dur comme fer que le jour de l'Éternel leur serait bénéfique, et pourtant ce fut pour eux un Waterloo, un désastre total, un temps de jugement, de châtiment, de destruction, de massacre, de déportation, et un jour qui a marqué la fin de la nation. Tôt ou tard, le jour de l'Éternel atteint tous ceux qui n'ont pas cherché refuge à l'ombre de la croix de Jésus.